Hélène Fromanti, bonsoir.
Bonsoir à tous. Une semaine après une première fronde anti-vaccin et anti-pass sanitaire, des dizaines de milliers de Français dans la rue aujourd'hui en France. Nous serons place du Trocadéro à Paris dès le début de ce journal. Manifestation aussi en Hongrie, à Budapest, marche des fiertés bien singulière alors que le gouvernement tente d'imposer sa loi anti-LGBT. Nous reviendrons également sur la première journée de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo, la joie notamment du judoka Luca Merezze, notre tout premier médaillé tricolore. Et puis la France, honorée par l'UNESCO, le phare de Corbouan en Gironde et la ville de Vichy rejoignent le patrimoine mondial de l'humanité. France Inter. En plein mois de juillet, ça gronde et ça gronde fort, plus fort que le week-end dernier. 160 000 personnes dans la rue aujourd'hui, un peu partout en France, contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale dans plusieurs professions. Samedi dernier, ils étaient environ 110 000. Aujourd'hui, il y avait donc 6 000 personnes à Nice, 4 000 à Strasbourg et Nantes, 3 200 à Metz, 2 000 à Lille. Et à Paris, ils étaient 11 000, rassemblés notamment place du Trocadéro. Dans la foule, des profils très variés, mais sur les pancartes, un seul mot d'ordre, liberté. Le reportage de Rémi Brancato.
Les drapeaux tricolores s'agitent face à la tribune, mais dans la foule, tous ne sont pas adhérents des patriotes. Le parti organisateur Almerinda, aide-soignante, est venu dénoncer l'obligation vaccinale à laquelle elle devra bientôt se soumettre.
Je travaille en réanimation médicale à l'hôpital Georges Pompidou. Je ne me ferai pas vacciner non plus parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps. Personne ne peut m'obliger à me faire vacciner.
Certains ici ne sont pas contre ce vaccin, mais opposés surtout au pass sanitaire, une atteinte aux libertés, comme le clame le mot d'ordre du rassemblement. Naïm, jeune cuisinier des Hauts-de-Seine, est en colère. Il l'affiche sur sa pancarte.
C'est écrit Macronie égale tyrannie, parce que depuis un certain temps, toutes les mesures que prend le président, c'est pour contrôler la France sans prendre en compte la vie du peuple. Qu'on soit comme ça, tracé, contrôlé tout le temps pour aller au restaurant, au centre commercial, c'est pas normal.
Alors la foule hue les noms des ministres. Cette grogne, l'ex-FN Florian Philippot entend l'attiser. À la tribune, il s'attaque frontalement au président.
Macron dit qu'il est en guerre. Eh bien Macron aura la guerre.
Le président des Patriotes, candidat à la présidentielle, appelle au boycott des lieux où le pass sanitaire est exigé. Il espère installer cette contestation dans la durée et appelle à de nouveaux rassemblements dans une semaine.
Rémi Brancato, au Trocadéro à Paris pour France Inter. Et près de l'Arc de Triomphe, des incidents ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Affrontement aussi en fin de parcours à Nantes. Pendant que les Français, certains Français battent le pavé, les sénateurs planchent toujours sur le projet de loi sanitaire. Pour l'heure, ils ont notamment voté deux amendements, l'un pour supprimer le pass sanitaire pour les moins de 18 ans, l'autre pour le supprimer tout court en terrasse de café et de restaurant. Deux dispositions qui devraient toutefois être rétablies dans la suite de la navette parlementaire lors de la commission mixte paritaire. L'épidémie de coronavirus et le variant Delta qui essaime. Les foyers de contamination se multiplient, notamment dans les lieux de loisirs. 33 cas de Covid détectés dans une colonie de vacances d'adolescents en Corse du Sud à Sagone. Et puis, autre cluster, cette fois dans une discothèque du centre-ville de Lille. Au moins 78 personnes sont malades et des centaines sont cas contacts. Louis de Bergevin.
Au départ, 6 malades sont repérés, mais en remontant la chaîne de contamination, l'Agence régionale de santé identifie 78 cas de coronavirus parmi les clients de la boîte. Et les tests révèlent une mutation évocatrice du variant Delta, précise l'ARS. Les personnes déjà identifiées sont placées à l'isolement strict, mais vu la propagation rapide du virus, les autorités appellent donc tous les clients à se faire dépister et à limiter leurs interactions sociales tant qu'ils n'ont pas le résultat du test. Sont concernés ceux qui ont fait la fête dans cette discothèque rue Gambetta entre le 13 et le 17 juillet, c'était la semaine dernière. Chaque soir, entre 300 et 400 personnes étaient rassemblées, sans masque, comme l'autorise la réglementation.
Louis de Bergevin, de France Bleu Nord. Direction maintenant la Hongrie avec une marche annuelle des fiertés très particulière cet après-midi dans les rues de Budapest. Les participants dans la rue, bien sûr pour défendre les personnes LGBT et aussi pour dénoncer la loi réprimant, je cite, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs. En guise de soutien, plusieurs eurodéputés français ont pris part au cortège. C'est le cas de Pierre Karleskind, il est membre du groupe politique Renouveau pour l'Europe auquel est rattachée La République En Marche.
C'est une atmosphère bon enfant. C'est ceci dit très encadré, beaucoup de forces de police. Il y avait quelques opposants, ça et là, le long du parcours, qui criaient. Mais vraiment une ambiance bon enfant. L'impression qu'il y a toute une société qui a envie de respirer un petit peu ici en Hongrie.
Quel message avez-vous voulu envoyer au gouvernement hongrois en participant à cette marche ?
Écoutez, le message qui est envoyé au gouvernement hongrois, il est tout simplement de dire mais nous n'allons pas être les têtes de turc de votre effet de diversion ou de votre volonté d'enfumage. Parce qu'on sait qu'Orban est aux prises avec des affaires de corruption, avec des affaires de problèmes d'état de droit. Le rapport annuel de la commission est assez édifiant sur ce sujet-là. Il y a le sujet Pegasus. Et alors, Orban essaye de s'en dédouaner en essayant d'impliquer les questions LGBT à tout ça à moins d'un an des élections. Donc le message aujourd'hui, c'est nous ne serons pas vos boucs émissaires. Voilà.
Propos recueillis par Frédéric Seyss pour France Inter. Et je rappelle que la Commission européenne a déclenché une procédure d'infraction pour tenter de faire annuler cette loi. De son côté, le Premier ministre nationaliste Viktor Orban souhaite se soumettre la législation à référendum. Cela empêchera-t-il vraiment les talibans de gagner du terrain en Afghanistan ? Les autorités afghanes viennent de décréter à compter de ce soir un couvre-feu dans l'ensemble du pays, sauf dans trois provinces. Avec cette mesure, le gouvernement cherche à endiguer l'avancée des talibans qui mènent de vastes offensives au niveau national depuis 2 mois. Les précisions à Kaboul de Sonia Ghezali.
Empêcher les talibans de profiter de la nuit pour se déplacer dans les zones qu'ils convoitent, c'est l'objectif de ce couvre-feu. Les autorités afghanes espèrent mettre ainsi un coup d'arrêt à la progression rapide des talibans. Au cours de ces 2 derniers mois, les fondamentalistes religieux ont capturé de nombreux districts ainsi que des postes frontières. Dans 31 provinces sur 34, il sera désormais interdit de circuler à l'extérieur entre 22h et 4h du matin. Un ingénieur travaillant dans le nord-est du pays nous a confié douter de l'efficacité sur le long terme de ce couvre-feu. Il a assisté à la capture de 4 districts de la province du Badakhchan, frontalière du Tadjikistan. Il raconte avoir été témoin de multiples désertions. Les talibans contrôlent à ce jour plus de la moitié du territoire afghan. Alors que les forces étrangères doivent se retirer d'Afghanistan au 31 août, les négociations de paix entre les talibans et le gouvernement patinent. Sonia Ghezali, Kaboul, RFI pour France Inter.
C'était une sorte de malédiction. Depuis les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, la France a toujours décroché sa première médaille au 2e jour de la compétition. Et bien grâce à Luca Meredze, ce mauvais sort semble brisé. Le jeune judoka de 25 ans offre à la délégation française sa première breloque au 1er jour d'épreuve des JO de Tokyo. Il repart avec le bronze chez les moins de 60 kilos. Beau parcours pour cet athlète né en Géorgie qui a fui son pays en 2009 avant d'être naturalisé français.
Je suis très très fier. Franchement, je sors de ma place de 3, mais j'arrive pas encore à réaliser que j'ai réalisé cet exploit. Ça fait des années, ça fait tout petit. Depuis que je suis tout petit, je pense à ce moment-là. Je suis là aujourd'hui et j'ai réussi à décrocher cette belle médaille de bronze. Le parcours que j'ai eu de ma vie, c'est ça qui m'a fait aussi que tous les jours, ça me donnait envie de me battre. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui je suis là, je me suis battu et j'ai jamais rien lâché.
Et sur Twitter, la ministre déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu, elle-même née en Roumanie, félicite un athlète qui a choisi notre pays comme terre d'accueil. À retenir aussi de cette première journée olympique côté tricolore, la qualification du jeune nageur Léon Marchand, 19 ans, pour la finale du 400 mètres 4 nages. En cyclisme sur route, David Gaudu sauve l'honneur national en terminant à une belle 7e place derrière l'équatorien Richard Carapaz en or. Côté tennis, espoir douché pour le duo Pierre Hugerbert-Nicolas Mahut, éliminé dès le premier tour. Déception aussi en volley, les Bleus défaits en 3-7 par les États-Unis. Et puis en basket, 3-3, le basket dit de rue. L'équipe féminine tricolore a fait son entrée dans la compétition avec 2 rencontres, Farida Noir.
D'abord contre les États-Unis, les Bleus n'ont pas fait le poids pour leur première rencontre face aux favorites du tournoi estampillé WNBA, la Ligue Nord-Américaine de basket. L'équipe de France dominait 10-17 pour cette entrée dans le tournoi. Une défaite que Laetitia Guapo voit tout de même de façon positive.
Je pense que cette défaite va nous servir pour la suite. Justement, c'est bien qu'on ait un petit peu peur. On a confiance en notre équipe, bien sûr, mais ça nous rappelle aussi que ici, tout le monde veut la même chose. Tout le monde veut monter sur le podium. Voilà, faut qu'on se serve de ça.
Tout se joue en 10 minutes. C'est la durée des matchs en 3-3. Pas de remise en jeu, pas de mi-temps, pas de carton. Ça va très vite, il faut tout donner. Et les Françaises sont allées puiser dans leurs réserves pour leur 2e match de la journée. 2 heures plus tard, elles affrontaient les Italiennes. Et la victoire 19-16, mais une victoire au forceps, à vous la joueuse, Anna-Maria Philippe.
On a du mal un petit peu à entamer nos débuts de match. Bon là, C'est bien, on termine sur une victoire, mais on sait que demain, ça va être très difficile aussi. Donc, faut vite qu'on se réveille, toutes. Maintenant, à nous encore de monter en puissance et foncer dès les premières secondes du match. Ouais.
Car les Françaises continuent en effet le tournoi et peuvent encore croire à une médaille. Championne d'Europe en titre, médaillée de bronze aux derniers mondiaux, dans le top 5 mondial, elles font aussi partie des favorites. Demain, elles affronteront le Japon et la Chine.
Le basket 3-3 qui fait partie de ces nouvelles disciplines de ces JO de Tokyo. Nous en reparlerons demain matin à 8h20 avec Amélie Perrier et ses invités sur France Inter. Dans les tribunes de ce match de basket France-États-Unis, peu de monde, Covid oblige, mais Emmanuel Macron était au rendez-vous. Au dernier jour de sa visite à Tokyo, le chef de l'État s'est également entretenu avec le Premier ministre nippon. Ensemble, ils ont notamment abordé l'épineuse question des enfants de couples franco-japonais séparés de leurs parents français après une séparation ou un divorce. Sur ce dossier, les deux dirigeants se sont engagés à renforcer le dialogue entre leurs pays. Mais c'est très insuffisant pour Vincent Fichaud, un papa français en grève de la faim depuis 2 semaines à 2 pas du stade olympique. Et pour cause, il est sans nouvelles de ses enfants depuis que leur mère japonaise est partie avec eux il y a 3 ans. Karine Nishimura l'a rencontré pour France Inter.
Visage amaigri après 15 jours sans s'alimenter mais toujours avenant, Vincent Fichaud peine à cacher sa déception face au peu d'avancées obtenues sur son drame et celui de tant d'autres, être séparé de ses enfants subtilisés par leur mère japonaise.
Je ne nie pas que la France a la volonté d'aider, ce serait être de mauvaise foi, mais la volonté n'est pas assez forte.
3 conseillers du président Macron sont venus voir Vincent pour lui assurer que le gouvernement se mobilisait sur cette question. Mais le président, qui pendant la cérémonie des JO n'était pourtant qu'à quelques centaines de mètres du lieu où s'est installé Vincent, n'a pas fait le déplacement. Déçu, Vincent préfère ironiser.
Il avait une réception avec des dessinateurs de manga japonais, donc je sais qu'il a un calendrier apparemment très chargé. Ouais. Je préfère qu'il m'ignore, mais qu'il arrête d'ignorer mes enfants. Avoir la nationalité française ne leur sert à rien.
Mais sa détermination est intacte, malgré la chaleur torride et un début de dégradation de sa condition physique.
Je ne me suis jamais senti aussi fort psychologiquement que cette semaine, dans les 3 dernières années, depuis que mes enfants ont été enlevés. Et j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce que mes enfants reviennent.
Pour le moment, les policiers le laissent tranquille. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Et après le Japon, Emmanuel Macron est maintenant arrivé à Tahiti pour un déplacement de 4 jours en Polynésie française. La reprise de la Ligue 2 de football cet après-midi, Bastia, tout juste promis, a fait match nul, 1-1 face à Nîmes, fraîchement relégué de Ligue 1. 8 autres rencontres débutent en ce moment, notamment Le Havre-Guingamp ou encore Amiens-Auxerre. 2 sites français rejoignent le club plus si fermé que ça du patrimoine mondial de l'humanité. La ville de Vichy dans l'Allier et le phare de Cordouan, situé au large des côtes girondines. Le comité de l'UNESCO rassemblé en Chine a rendu sa décision cet après-midi. Décision évidemment réjouissante pour la présidente du syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire de la Gironde. Et un probable afflux de touristes ne fait pas peur à Pascal Gau.
On sait que les sites inscrits à l'UNESCO ont à peu près entre 30 et 35% de plus de visiteurs. Sauf que le phare est au milieu de l'estuaire, dans un environnement assez hostile, avec une accessibilité assez compliquée. Donc nous avons une régulation naturelle, qu'il soit inscrit à l'UNESCO, ne va pas changer la météo, ne va pas changer les marées. Donc nous serons toujours conditionnés à ces 2 thèmes importants. Et puis ensuite, nous avons prévu d'élargir peut-être la saison de visite. Et je rappelle que tout le monde ne peut pas accéder vu la difficulté à ce site. Donc nous avons des points relais à terre des 2 côtés des rives qui vont permettre à des publics empêchés de pouvoir découvrir Cordouan. Donc nous avons quand même une gestion assez souple et maillée pour accueillir plus de visiteurs.
Propos recueillis par Bernard Thomasson et ce phare de Cordouan ainsi que la ville de Vichy. Vous les découvrez ou redécouvrez en images sur franceinter.fr. La météo.
La météo avec Pavillon France, la marque de la pêche française. Rendez-vous sur pavillonfrance.fr. Pavillon France, le jour de pêche est arrivé.
Et tout de suite, les prévisions de Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Ce soir et la nuit prochaine, on surveillera une zone de pluie parfois orageuse de la Gironde à la région Poitou-Charentes, des Pays de la Loire à la région Centre et de l'Île-de-France à la Normandie. Demain matin, vous retrouverez ces pluies orageuses entre la Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Un ciel variable avec quelques averses de la Gironde à la Bretagne et jusque vers la région Centre. Et puis dans les autres régions, vous profiterez d'assez belles éclaircies. L'après-midi, peu d'évolution. Prévoyez des averses orageuses au nord de la Loire et près des frontières. frontière de l'Est. L'ensoleillement restera généreux entre le Languedoc-Roussillon et la région PACA, sans oublier la Corse. Et partout ailleurs, le ciel sera partagé entre éclaircies et cumulus, parfois porteurs de courtes averses. Côté température, les maximales l'après-midi évolueront généralement entre 21 et 27 degrés, avec 21 à Cherbourg, 23 dans la capitale comme à Lille, Limoges et Biarritz. Comptez 24 à Bordeaux, 25 à Nancy et Dijon, 26 à Toulouse et 27 à Lyon. Ça restera chaud autour de la Méditerranée, avec des valeurs comprises entre 30 et 34 degrés.
Jean-Pierre Hameau, merci.